Manuel Valls a quitté le territoire hier soir. Retour sur une semaine de visite du ministre des Outre-mer dès le début de ce journal. 9 personnes mises en examen dans le dossier du meurtre du gendarme Molinari. Nous avons fait le point ce matin avec le procureur de la République Yves Dupas. Caroline de Groisel, invitée de ce journal, l'artiste peintre, vient nous parler de sa prochaine exposition qui débute samedi à la galerie Artebello. En métropole, le risque d'attentat est réel. 2 mineurs ont été interpellés et mis en examen. Ils projetaient des actions contre la communauté juive. François Bayrou, qui va engager la confiance de son gouvernement, persiste et signe et met la pression sur les oppositions. Vous avez à choisir entre le chaos et la responsabilité, leur a-t-il dit. Et puis dans la page sport, le français David Gaudu, nouveau leader du Tour d'Espagne cycliste. Nous parlerons aussi du sort des Français au premier tour de l'US Open de tennis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre des Outre-mer a quitté hier soir la Nouvelle-Calédonie au terme d'une visite d'une semaine. Un départ reporté à 2 reprises. La première fois pour la poursuite du travail du comité de rédaction. La seconde pour un entretien hier matin avec la nouvelle délégation du FLNKS. Et avant son départ, il a dressé le bilan de ce séjour face à la presse, Elisabeth Noir.
Et à l'issue de ce séjour, Manuel Valls affichait sa satisfaction. Il déclare que l'accord de Bougival, que certains considéraient comme morné, est conforté et que nous avons considérablement avancé. Il salue notamment le travail du comité de rédaction qui s'est réuni à 3 reprises et qui a stabilisé le projet de loi constitutionnelle, même si, dit-il, le travail juridique n'est pas terminé. Et il affirme que les travaux ont été dominés par un grand esprit de responsabilité de la part des signataires et surtout d'une volonté de le mettre en œuvre. Interrogé sur le calendrier national et sur les conséquences d'une chute éventuelle du gouvernement Bayrou, il se montre confiant en affirmant que l'État devra, quoi qu'il arrive, assurer la continuité des échanges et du cap tracé. Selon lui, la chute du gouvernement pourrait entraîner un décalage de quelques jours ou de quelques semaines, mais sans remettre en cause le processus engagé. Manuel Valls se reconnaît toutefois qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, on entrerait alors dans une autre dimension. Et justement pour lui, cette instabilité nationale rend encore plus précieux cet accord, parce que selon lui, ne pas mettre en œuvre Bougival aujourd'hui, ce serait se retrouver dans un vide absolu.
Et le ministre a également été interrogé sur l'échange de 3 heures qu'il avait eu le matin avec la nouvelle délégation du FLNKS.
Manuel Valls répète que sa porte reste ouverte et qu'il continuera à travailler avec le FLNKS, mais il lui demande aussi de reprendre contact avec les autres groupes politiques. Parce que, dit-il, la société calédonienne, ça n'est pas que le FLNKS et qu'il ne peut pas y avoir un débat uniquement entre l'État et le FLNKS. Le ministre est conscient de l'inquiétude des Calédoniens concernant les risques de troubles en cas de mise en œuvre de l'accord sans le soutien de toute la mouvance indépendantiste. Et avec prudence, il énumère 4 différences qui existent selon lui avec le passé. La première, c'est qu'il y a un accord. La deuxième, c'est que cet accord est global avec une réforme constitutionnelle et un soutien national majoritaire. La troisième, c'est que le PALIKA et l'UPM ont signé cet accord et le soutiennent. La quatrième, enfin, déclare Manuel Valls, c'est que l'État ne se laissera pas surprendre cette fois-ci. Le ministre des Outre-mer qui estime qu'en conséquence, il faut avancer, d'autant plus dit-il qu'il a senti en Nouvelle-Calédonie une envie de stabilité et de paix.
Manuel Valls avait donc décidé de prolonger son séjour de 24 heures pour rencontrer la nouvelle délégation du FLNKS, une délégation renouvelée par rapport à celle qu'il avait rencontrée mercredi dernier.
Renouvelée puisqu'elle a été emmenée cette fois-ci par le chef de groupe UCFLNKS au Congrès, Pierre-Charles Toutougoro, et par Gilbert Thuénon, membre du gouvernement. Ces 2 personnalités de l'UC étaient accompagnées de Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC, de Laurie Omouni pour le RDO, de Jean-Marie Ayawa pour la DUS, d'Oriane Trolu pour le mouvement des Océaniens indépendantistes et de Roch Aucas pour le Parti travailliste. L'entretien a duré 3 heures et la délégation a quitté le Haut-Saharia sans faire de déclaration, mais elle a publié un communiqué en fin d'après-midi et il confirme que le FLNKS n'a pas évolué dans sa position. Il réaffirme avec clarté et détermination son rejet catégorique du projet d'accord de Bougival, un texte contraire, dit-il, à l'esprit de l'accord de Nouméa, qui ne saurait constituer une base de discussion pour l'avenir du pays. Ce communiqué indique toutefois que le FLNKS confirme sa volonté de poursuivre le dialogue au plus haut niveau de l'État, dans un esprit de responsabilité, et qu'il reste fermement engagé à construire avec l'ensemble des partenaires un accord d'indépendance. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS sont satisfaits que le comité de rédaction ait abouti à la rédaction de la première version du projet de loi constitutionnelle. Ils sont 17% à dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Et puis voici notre question du jour. L'engagement de la confiance par le Premier ministre qui pourrait provoquer son départ de Matignon peut-il avoir selon vous des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival ? Si vous pensez que cela peut avoir des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. L'enquête se poursuit dans l'affaire du meurtre du gendarme Molinari. C'était le 15 mai 2024 à la coulée. La semaine dernière, une reconstitution précise a eu lieu sur place pour déterminer l'implication de chacun des mis en cause, Nicolas Legrand.
Oui, une reconstitution fidèle. Des carcasses ont été positionnées sur la chaussée pour reproduire le lieu le soir du drame. Cette opération judiciaire a mobilisé 450 gendarmes pour assurer la sécurité. Témoins et mis en cause ont été entendus pour faire la lumière sur ce drame. Il en ressort que vers 20h10, ce 15 mai 2024, une balle a traversé le pare-brise pour atteindre le gendarme Molinari à la tête alors qu'il se trouvait à la place conducteur du bus de type Iris. Selon l'expert balistique, le tireur pouvait se trouver à une distance comprise entre 200 et 230 mètres de sa victime et a utilisé une arme longue équipée d'une lunette de visée. Il aurait fait feu au moment où le gendarme Molinari utilisait son téléphone portable, ce qui a éclairé son visage dans l'obscurité ambiante. La victime décédera 3h30 plus tard. Peu de temps avant ce drame, trois véhicules roulaient en convoi et auraient cherché initialement à venir cambrioler le centre commercial de la coulée. Et c'est depuis ces voitures qu'ont été tirés les coups de feu. L'enquête avance, mais il s'agit d'un dossier compliqué, nous a dit le procureur de la République Yves Dupas.
C'est un dossier où nous avons effectivement des silences, des mensonges, des contradictions. C'est un dossier compliqué qui implique effectivement 9 personnes qui sont mises en examen. 3 chefs d'infraction principaux. C'est à la fois l'association de malfaiteurs en vue de la commission de crime. C'est bien sûr le crime de meurtre sur le gendarme Molinari en bande organisée. C'est aussi le crime de tentative de meurtre en bande organisée sur les autres gendarmes, puisque le gendarme Molinari était dans le véhicule avec ses camarades de ce détachement de gendarmes mobiles. Ils étaient 7. Et donc, ils ont été tous visés par une série de tirs. À ce jour, nous n'avons pas identifié formellement le tireur qui a tué le gendarme Molinari, mais nous avons identifié 2 tireurs qui ont tiré vers ce véhicule qui était au bout du pont de la coulée.
L'un des tueurs présumés a été mis en examen et est actuellement en détention. L'autre a été tué le 19 septembre dernier lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Pour l'ensemble des protagonistes, des mesures de sûreté ont été prises.
Dans ce dossier, nous avons 3 personnes qui sont incarcérées, une personne donc sous assignation à résidence, et puis des personnes placées sous contrôle judiciaire, ce sont notamment celles qui ne sont poursuivies que des faits d'association de malfaiteurs. Avec une réserve, c'est que il s'agit de toutes de personnes appartenant à la tribu de Saint-Louis qui sont concernées par d'autres affaires et qui peuvent être détenues pour autre cause, hors de ce dossier, avec des titres de détention qui ont été délivrés, vous le savez, suite au traitement des 68 carjacking, des 350 tirs donc sur les forces de l'ordre pendant 4 mois et demi. Voilà la situation du point de vue des mesures de sûreté.
Pour le procureur de la République Yves Dupas, la justice doit pouvoir travailler sereinement pour permettre la manifestation de la vérité et il a réaffirmé ce matin toute sa détermination.
Le travail de manifestation de la vérité, c'est le cœur de l'action de la justice, suppose de la discrétion et de la sérénité. C'est un travail titanesque qui est mené, parce que d'abord nous devons la vérité à la famille du gendarme Molinari. Nous devons la vérité à ses camarades de l'escadron de Melun. Et nous devons la vérité aussi aux Calédoniens. C'est une affaire dramatique qui s'est déroulée ce 15 mai. C'est aussi un drame pour la République et pour l'État de droit. Donc, pour tout ceci, de notre côté, c'est une détermination absolue à élucider de manière effectivement la plus complète possible cette affaire.
Les forces de l'ordre sont encore régulièrement prises à partie. Ce fut encore le cas à Marais lundi matin. Vers 4h30, une administrée a appelé les gendarmes qui se sont immédiatement préparés à partir en intervention. Et c'est à ce moment-là qu'un individu a tiré un coup de feu dans une fenêtre de la caserne. 18 impacts ont été relevés, dont certains ont été perforants sur des portes ou des cloisons intérieures. Des faits graves qui mobilisent la justice, nous a dit le procureur de la République Yves Dupas.
Il s'agit d'un coup de feu à l'aide d'un fusil de chasse. 7 projectiles qui sont rentrés donc dans les locaux, qui auraient pu atteindre des gendarmes.
Il n'y a pas eu de blessés.
Il n'y a pas eu de blessés, mais nous n'en étions pas loin du tout. Alors ces faits sont totalement inacceptables. Et bien évidemment, nous tenions à élucider rapidement cette affaire.
Alors là, on est dans un cas assez fort, mais est-ce que les attaques contre les forces de l'ordre aujourd'hui ont tendance à s'amplifier ou pas ?
Nous en avons eu une autre à Thiot, hein, un coup de feu dans un véhicule à proximité d'un pavillon de structure assez légère, hein, donc qui aurait pu, là aussi, peut-être toucher des gendarmes qui étaient dans les locaux. Et puis nous avons un certain nombre d'individus qui se livrent à du caillassage sur les véhicules de gendarmerie, de police. Tout ceci justifie effectivement une vigilance et des enquêtes dynamiques pour identifier les auteurs.
Le tireur de la gendarmerie à Tadine a été identifié. Il devrait être entendu dans la journée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien avec le procureur de la République, Yves Dupas, directement sur notre site internet rrb.nc.
Et à 11h42, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Hé, hey, ça bouge à Boulari. Le marché Broussard revient au marché de Boulari du Mont d'Or. Le dimanche 31 août de 6h à midi, venez déguster et apprécier les produits de notre terroir avec notre nouveau boucher et sa nouvelle buvette. Charcuterie, fruits et légumes, produits de la mer, animation musicale avec Yellow et manège en animation pour les petits et les grands. Tout pour satisfaire vos papilles gustatives. Miam miam, et à dimanche prochain.
RRB, 11h, 13h. Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec d'abord cette soirée organisée par l'association Talents Calédoniens pour soutenir les jeunes porteurs de projets. C'était hier soir au chef de l'hippodrome à Nouméa, Mickaël Juneski.
Oui, un format original pour créer un espace d'échange et de rencontre entre des jeunes voulant lancer leur activité et des professionnels. Écoutez les explications de Thomas Guedel, il est membre de l'association Talents Calédoniens.
L'objectif de la soirée Talents Calédoniens, c'était de proposer une soirée de réseautage à nos adhérents et aux jeunes qu'on a invités, pour justement créer des liens entre les entrepreneurs locaux et les jeunes qui sont parfois en recherche d'un poste ou qui ont un projet et qui ne savent pas trop vers qui se tourner. Donc c'est vraiment le but de l'association Talents Calédoniens. On cherche à faire revenir les jeunes calédoniens sur le territoire, quand ils sont partis faire des études en métropole par exemple, et on les accompagne dans leur projet de création d'entreprise ou dans leur projet de carrière à travers des dispositifs comme le dispositif de parrainage qu'on va relancer cette année-là.
La soirée a été rythmée par des prises de parole et des discours pour soutenir et accompagner dans leur projet ou dans leur recherche d'emploi ces jeunes, à l'image de Georges.
J'ai 23 ans et je suis actuellement à la recherche d'emploi et je souhaite ouvrir mon entreprise. Mon objectif en venant ici ce soir, c'est de trouver des personnes qui me conseillent, parce que le monde de l'entrepreneuriat est pour moi méconnu. Et avoir des conseils, élargir mon réseau de professionnels pour pouvoir développer mon activité. Je souhaiterais développer une entreprise dans le fast-food, importer un concept qui existe déjà à l'international mais qui est absent sur le territoire, celui de la personnalisation du burger.
Et grâce à cette soirée, des jeunes ont ainsi pu mettre en avant leur projet, mais aussi leur cursus, avec à la clé des prises de contact utiles pour la suite de leur parcours.
Et puis une rencontre intergénérationnelle aujourd'hui pour le conseil municipal junior de Nouméa. Une visite était organisée au foyer logement Les Orchidées. Jeux de société, discussions autour de souvenirs d'école, jeux de mémoire. Les jeunes ont pu échanger pendant 3 heures avec des personnes d'une autre génération. Le projet a été proposé par 2 élèves de CM2 de l'école Paul Boyer.
Là, en fait, il y a des photos. La mairie de Nouméa, avant, c'était une école. L'école Suzanne Bussier.
L'école, elle était en 2 parties.
Ça d'accord. Fait du bien de parler avec les
personnes plus âgées.
Oui, voilà.
parce qu'ils ont des histoires incroyables. Et puis nous aussi, on en a à leur raconter.
On s'est rencontrés, on a parlé un petit peu, on a fait des jeux.
On apprend des choses sur notre passé, en plus de l'histoire qu'on fait déjà à l'école. Puis c'est cool quand même de passer des moments avec des personnes qu'on n'a quasiment jamais rencontrées et qu'on vient de connaître.
Une rencontre qui a également plu à leurs aînés. Une dizaine de participants se sont prêtés au jeu et ont partagé avec émotion leurs souvenirs d'enfance.
Oui, oui, c'est passé ça.
Non, c'est passé.
Non, j'invente maintenant.
On a fait des jeux de société avec les enfants qui sont beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus rapides. Et puis bon, ben, on a eu ensuite, enfin avant, un échange intergénérationnel. On était interviewés par des jeunes sur notre vie passée, sur nos activités actuelles.
Je trouve que ça nous booste, c'est très bien. Et je trouve que c'est un beau projet.
Eh bien écoutez, je trouve ça super, parce qu'en fait, ils nous apprennent ce qu'ils font maintenant. Et nous, ça nous remet des années en arrière, ça nous remémore et on leur fait partager, c'est trop bien.
18 jeunes conseillers municipaux ont participé à cette rencontre organisée en partenariat avec le CCAS de la ville de Nouméa. Cet après-midi, les jeunes ont rendez-vous à la place des cocotiers pour élaborer un jeu de loi géant. Allez, parlons couleurs pour poursuivre ce journal. Couleurs avec Caroline de Groisel qui est notre invitée. Bonjour.
Bonjour et merci à mon équipe fidèle d'RRB. Vous me suivez depuis tellement longtemps.
Oui, depuis tout le temps. Caroline de Groisel, artiste peintre, on le rappelle, qui prépare sa prochaine exposition qui ouvrira samedi prochain et jusqu'au 11 septembre à la Galerie Artebello à Nouméa. Alors je disais couleurs, parce que le thème que vous avez choisi, c'est variation en fantaisie couleur. La couleur, c'est l'une des préoccupations du peintre en permanence.
Ça dépend des artistes, hein, je veux dire...
Oui, on pour peut Pierre pas... Soulages, évidemment, oui, voilà. C'était pas le cas.
Mais la richesse d'une seule couleur est aussi très, très intéressante. Mais bon, moi, j'ai toujours regardé le prisme de la vie avec une multitude de couleurs. Et c'est vrai qu'elle m'étonne toujours parce qu'elle fusionne de façon toujours différente.
Et la couleur et l'harmonisation des couleurs, c'est aussi une forme d'optimisme ?
Ah oui, mais de fantaisie, de folie, de foi dans un rêve, Roosevelt disait qu'il fallait croire dans la beauté de ses rêves, et moi je crois dans la beauté de mes couleurs.
Alors variation en fantaisie couleur. On a un peu parlé de la couleur, parlons maintenant de la variation parce que c'est en fait une exposition très variée. Il y a pas, on peut pas dire qu'il y a un thème comme il y en a eu d'autres sur les océans, les volcans, etc.
Non,
là c'est vraiment de la variété que vous proposez.
Il y a quelques anciens tableaux qui ont été un peu rénovés.
Remasterisés, comme on dirait
remasterisés,
maintenant.
Remasterisés, si vous voulez. Remis au goût du jour, et, enfin au goût de mon jour à moi. Et puis beaucoup de nouveautés avec des techniques différentes. Je pense que les gens qui me connaissent depuis très longtemps vont être surpris de voir des techniques différentes. On sent quand même mon authenticité, mon écriture, mais c'est vraiment avec des outils différents. Et j'aime bien m'étonner de toute façon aussi. Hein. Si le jour où je ne m'étonnerai plus, je ferai autre chose.
Voilà, vous n'aimez pas surprendre pour surprendre ?
Ah non, j'aime surprendre pour me surprendre.
Ouais. Et pour j'aime surprendre être surprise. Évidemment les visiteurs.
Bah, écoutez, oui, éventuellement. Voilà. Donc, ceux qui disent « Ah, oh, j'aimerais bien que vous fassiez la chose que vous avez fait comme », je dis « Je peux pas, je peux plus ».
C'est fait.
Et heureusement, j'espère que j'ai un peu évolué aussi et que je change. Donc, moi, je suis le témoin de la vie, de ce que j'apprends, de toutes mes aventures et de toutes mes... Parce que moi, je suis j'observe et je m'émerveille. Voilà, de tous mes émerveillements.
Alors, cet émerveillement, il est traduit dans des toiles qui sont vraiment très différentes quand même les unes des autres, en taille, en choix de couleurs.
Oui, en taille, c'est sûr qu'il y en a des très, très grands, il y en a des très petits, des techniques différentes, des sujets différents. Bon, je vous laisserai voir, de toute façon, en venant voir l'exposition, hein, mais on part un petit peu dans, non pas dans tous les sens, mais dans une richesse de vision, de regard, parce que l'important, c'est de, voilà, d'ouvrir les yeux.
Alors, Caroline de Groisel, vous exposez régulièrement en Nouvelle-Calédonie, quasiment une fois par an, hein, voire parfois un petit peu plus. Ça dépend évidemment du rythme de production. Il y a aussi des expositions à l'international, parce qu'on oublie parfois de le dire, mais vous voyagez, vos toiles sont exposées aussi à l'extérieur, vous êtes primée à l'extérieur.
Oui, mes toiles voyagent même plus que moi, parce que je ne les accompagne pas toujours. Et c'est bien, d'ailleurs, parce qu'elles se débrouillent et je ne suis pas là à faire la publicité de ma peinture. Donc, elles se débrouillent au milieu. Et c'est vrai que j'ai aussi des belles surprises avec l'Italie et puis avec la France aussi. Et ça donne du baume au cœur, bien entendu, parce qu'en tant qu'artiste, se côtoyer d'autres artistes et d'autres talents merveilleux, je veux dire, au moins, il faut garder une certaine humilité, de façon pour avancer, hein, et pour continuer ce chemin. Mais c'est vrai que j'ai de belles surprises.
Alors, oui. Voilà. Vous partagez aussi depuis plusieurs années vos passions avec un certain nombre. Vous aimez pas les appeler des élèves, hein, mais
d'autres peintres
qui ont besoin d'être guidés et accompagnés.
Guidés non, accompagnés oui. Et surtout, vraiment, je crois que je suis vraiment une manière de réveiller ce qu'ils ont vraiment d'artistes en eux et qui n'osent pas et qui ont été parce que, enfin, le côté enfant spontané et sans aucun doute. Ouais, de doute. Parce que le doute et la peur, ça arrête tout. Hein.
Alors, quand vous exposez, Caroline de Groisel, vous êtes souvent présente, évidemment, à votre exposition. Est-ce que vous guettez un petit peu le premier regard que portent les visiteurs sur les toiles? Est-ce que vous cherchez un petit peu des indications dans le regard et dans ce qu'il renvoie en regardant vos toiles?
En fait, le premier regard, c'est le mien. Parce que j'arrive, quand l'exposition est accrochée, à devenir le spectateur de l'exposition et plus l'artiste. Donc déjà...
Vous changez de posture.
Je change de posture, parce que ce sont des tableaux qui ont un certain temps, puisque même un an, on les met dans un coin, ils ne sont pas toujours exposés, et je les redécouvre. Et je les redécouvre dans une exposition, on n'a pas le même regard que dans l'atelier. Hein. Donc déjà... Et puis c'est vrai que le premier regard des gens qui est étonné ou alors ils passent à travers sans rien voir, ça arrive aussi, hein. Dire, il y a des gens qui sont pas sensibles à ça ou pas sensibles à ce que je fais moi parce que c'est peut-être ils sont attirés par autre chose et tant mieux. Donc je ne le cherche pas, mais j'aime bien être spectatrice de ça. Oui, c'est amusant.
Alors une exposition, c'est un peu quand même l'aboutissement d'un travail, mais c'est un travail qui se fait tout le temps, au jour le jour. J'imagine peut-être
c'est
même
pas
la
un
nuit.
Travail.
Vous êtes déjà sur
la
prochaine exposition.
La nuit non. La nuit je dors. Non, ça c'est. Je suis pas dans le genre, dans le côté fantaisie justement des artistes qui sont inspirés la nuit, tout ça. Bon, ça fait partie un peu du théâtre artistique,
du folklore.
Mais bon, ça non. Mais je laisse faire les choses aussi avec évidence. Je peins, je découvre, j'ai de nouveaux de projets, bien sûr. Et puis ça dépend des projets aussi, des personnes et des organismes qui se mettent en contact avec moi. J'ai confiance en fait.
Et c'est à la galerie Artebello, hein, cette exposition.
C'est à la galerie Artebello parce que c'est une galerie que j'aime bien. J'aime bien cette fidélité de travail, un peu comme avec vous, comme avec. J'espère qu'elle va tenir cette galerie parce qu'elle a aussi traversé et elle traverse encore de solides problèmes dus à tout ce qu'on a vécu. Et l'art, malgré tout, a pris un coup de pied au derrière. Hein, je veux dire pour. Donc j'espère. Et vraiment être là et animer cette galerie, je pense que c'est aussi un cadeau à faire à cette galerie.
Variation en fantaisie couleur, c'est donc votre prochaine exposition. Ça démarre samedi prochain, le 30 août, et ça se poursuivra jusqu'au jeudi 11 septembre à la galerie Artebello. Caroline de Groisel, merci beaucoup d'être venue.
Merci beaucoup, c'est trop court.
Pour nous parler de voyage. On vous recevra une prochaine fois pour en parler plus longuement. Merci en tout cas.
Merci infiniment.
Il est 11h54, la suite de ce journal dans un instant avec une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde. A tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
du mardi au vendredi à 6h25 et 11h20 et le samedi à 7h45, écoutez l'édito d'Europe 1 avec le village automobile PK4 à Nouméa. Le village automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et aussi 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole d'abord, et le risque d'attentat est toujours une réalité. Les services de sécurité ont déjà déjoué plusieurs tentatives depuis le début de l'année. En fin de semaine dernière, deux adolescents ont été interpellés et mis en examen. Ils projetaient des attentats principalement contre la communauté juive. William Molinier pour Europe 1.
Dans leur éventail d'objectifs figuraient des synagogues et la tour Eiffel. Des cibles sur fond d'antisémitisme et des symboles de la cause djihadiste. Les deux mineurs d'origine arabo-musulmane sont âgés de 15 et 17 ans. Ils habitent la région parisienne et étaient entrés en contact grâce à des messageries chiffrées. Selon les informations d'Europe 1, ils sont aussi soupçonnés d'avoir voulu se rendre en terre de djihad et d'avoir diffusé de la propagande de l'État islamique. Nouvelle illustration d'une génération de jeunes djihadistes qui émergent depuis plusieurs mois, mineurs, consommateurs frénétiques d'ultra-violence sur les réseaux sociaux et passage à l'acte particulièrement imprévisible. Des profils difficiles à déceler pour les services de renseignement qui, malgré tout, réussissent à entraver des projets d'attentats depuis le début de l'année. Au moins 13 mineurs ont été interpellés dans des affaires de terrorisme. Ils étaient 18 l'année dernière, 15 en 2023, contre seulement 2 en 2022. Cette accélération a poussé le parquet national antiterroriste à se doter le printemps dernier d'une section mineure afin de mieux prendre en compte ce phénomène émergent.
L'actualité politique en métropole et François Bayrou persiste et signe. Le Premier ministre a pris tout le monde de court hier en annonçant qu'il engagerait le 8 septembre prochain la confiance de son gouvernement après une déclaration de politique générale devant le Parlement. Non seulement il persiste, mais il lance aussi un appel aux oppositions qu'il invite, vous allez l'entendre, à choisir entre le chaos et la responsabilité.
Le premier risque, c'est le déni. Et donc, j'ai pris le risque de mettre devant leurs responsabilités les représentants des Français, notamment à l'Assemblée nationale. C'est un moment de clarification et c'est un moment de vérité. Dans les 13 jours qui viennent, les Français vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité.
François Bayrou persiste donc et signe et invite les oppositions à choisir entre chaos et responsabilité. Il s'exprimait lors des universités d'été de la CFDT. Les oppositions justement à gauche, mais aussi le Rassemblement national sont bien décidés à faire chuter le gouvernement. Si c'est le cas, la question qui se pose est de savoir ce que va décider le président de la République. Pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, c'est simple. Soit Emmanuel Macron prononce une nouvelle dissolution, soit il démissionne.
Je viens dire ce soir devant vous et devant nos compatriotes qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour sortir de cette impasse politique dans laquelle nous sommes, c'est d'en revenir aux urnes, c'est de se rendre devant le peuple français, et c'est qu'Emmanuel Macron entende aujourd'hui ce blocage institutionnel qu'il a lui-même suscité et qu'il prononce soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit évidemment qu'il remette sa démission et qu'une nouvelle élection présidentielle puisse permettre aux Français de se choisir un cap pour le pays.
Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, invité du 20h de TF1. Plusieurs noms circulent déjà pour remplacer François Bayrou à Matignon. Les plus fréquemment cités sont Sébastien Lecornu, Bernard Cazeneuve ou encore Gérald Darmanin. La mort en direct sur la plateforme Kick de Jean Permanov continue de poser beaucoup de questions. Il est décédé dans son sommeil après avoir subi des sévices pendant de nombreuses semaines en direct sur la plateforme australienne qui est visée par une nouvelle enquête ouverte par le parquet de Paris. On fait le point avec Jean-Baptiste Marty.
D'abord, cette plainte pour manquement déposée contre la plateforme australienne. Écoutez la ministre déléguée chargée du numérique, Clara Chapaz.
Je considère que Kick n'a pas fait tout ce qui était en son possible pour pouvoir mettre fin à la diffusion de contenu qui était dangereux. J'en fais mon combat.
Elle reproche aux dirigeants de la plateforme une absence de modération et donc un non-respect de la loi sur la confiance numérique de 2004. En parallèle de cette plainte, une autre procédure a été ouverte par le parquet de Paris via son service cybernumérique. Une enquête préliminaire du chef de fourniture en bande organisée. Là, les enquêteurs vont chercher à déterminer si les patrons de Kick diffusaient volontairement ces vidéos violentes et s'ils ont respecté le règlement européen sur les services numériques, notamment l'obligation de signaler aux autorités les risques d'atteinte à la vie. Des faits pour lesquels les dirigeants de Kick, s'ils sont reconnus coupables, encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Il sera midi dans quelques secondes. C'est l'heure de marquer la dernière pause de ce journal. avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
À toutes les Calédoniennes, la Nouméa NOPT célèbre sa 20e édition. Pour cette occasion très spéciale, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 octobre à l'Hippodrome Henri Millard pour une matinée solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Stands thématiques, marches et surprises vous attendent pour ce grand moment de partage 100% féminin. Inscrivez-vous vite sur www.inlife.nc. Plus d'infos sur la page Facebook La Nouméa NOPT.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Allez, le cyclisme à la une aujourd'hui. Le Français David Gaudu a endossé en effet cette nuit pour nous le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne à l'issue de la quatrième étape dont l'arrivée était jugée pas tout à fait en Espagne mais à Voiron près de Grenoble, Lionel Sabot.
Oui, vainqueur hier de la troisième étape en Italie, David Gaudu s'est en effet emparé du maillot rouge devant le favori Jonas Vingegaard. Au terme d'une quatrième étape remportée au sprint par un Britannique, Ben Turner, le leader de l'équipe Groupama FDJ, arrivé 25e de cette étape à Voiron, en Isère, possède le même chrono que Vingegaard au classement général. Lui, il est arrivé 42e de l'étape, mais Gaudu a pris l'avantage grâce à l'addition de tous les classements obtenus depuis le départ de la course. L'Italien Giulio Ciccone est 3e à 8 secondes des deux leaders. À 28 ans, le grimpeur français qui vivait jusqu'ici une saison bien bien compliquée, marquée par une 66e place un peu anonyme, il était dans les etc. au Giro d'Italia et par un Tour de France qu'il a regardé à la télévision après son forfait. Il a endossé pour la première fois un maillot sur un grand tour. Écoutez David Gaudu.
C'est une émotion, surtout quand on est en France, dans son pays. Voilà, ça reste que la Vuelta. Je peux même pas imaginer ce que c'est sur un Tour de France, mais voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions que d'être devant son public et d'avoir son public qui s'acclame. Ce matin, c'était tout l'un tout l'autre. On voulait le faire, mais d'un autre côté, j'étais aussi un petit peu sur la réserve parce qu'on sait qu'il y a c'était dangereux dans les sprints. J'ai pris assez de gamelles cette année, donc. J'ai dit que le premier objectif, c'était d'être safe. Et voilà, le deuxième objectif, si ça venait, ça viendrait.
Et notez que David Gaudu a très peu de chance de conserver sa tunique rouge demain. Pour la cinquième étape, les coureurs seront enfin en Espagne. Après avoir visité donc l'Italie et la France, Gaudu devrait perdre son maillot de leader puisque l'étape sera un contre-la-montre par équipe à Figueres, c'est en Catalogne. Autant de dire que l'équipe Groupama FDJ n'est pas franchement spécialiste de la discipline.
On va passer au tennis avec la suite du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. C'est bien sûr l'US Open.
Ah oui, avec une seule bonne nouvelle côté tricolore, c'est la qualification de Valentin Royer, issu des qualifications. Il s'est imposé ce matin en 3-7 face au Chinois Bu. Pour le reste, que des éliminations. Giovanni Empeci Pericard s'est incliné en 4-7 devant l'Italien Musetti. Score final 6-7, 6-3, 6-4 et 6-4. Pas plus de chance pour Quentin Alice qui a été défait par le Belge David Goffin. Score final 6-7, 6-4, 6-3 et 7-5. Hugo Gaston a également été éliminé, mais lui en 3-7 par le Japonais Mochizuki, score final 6-4, 6-3 et 6-4. Et puis chez les dames, c'est pas mieux. Loïs Boisson s'est incliné en 3-7 devant la Canadienne Golowicz. Score final 3-6, 7-6 et 6-2.
Le Chinois Bu, tout à l'heure j'ai dit Bu. On va se renseigner sur la prononciation chinoise exacte, Lionel.
Oui, j'ai gardé simplement la phonétique.
Voilà.
B-U, Bu.
B-U, Bu. Le football maintenant, avec la dernière phase des barrages d'accession à la Ligue des Champions.
Oui, et ce matin, la modeste équipe de Paphos FC a créé la sensation en se hissant pour la première fois de son histoire en phase de Ligue des Champions à l'issue d'un match nul 1-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il s'agit d'un exploit retentissant pour le club chypriote qui s'était déjà imposé à la surprise générale il y a une semaine dans la capitale serbe. Ce matin, les chypriotes ont concédé l'ouverture du score par un but d'Ivanovic à la 60e minute avant d'égaliser par Jaja en fin de match à la 89e. Comme quoi, comme on dit chez moi, un petit coup de Jaja de temps en temps, ça fait pas de mal. Notez que que le Paphos FC vient de recruter le défenseur brésilien David Luiz, qui a notamment joué à Chelsea, mais aussi au Paris Saint-Germain.
On va parler sport mécanique maintenant avec de la Formule 1, parce que la saison 2026 se prépare déjà.
Ah oui, une saison 2026 qui sera marquée par l'arrivée d'une nouvelle écurie, en l'occurrence Cadillac dans les paddocks. Cadillac qui pourra compter sur l'expérience du Mexicain Sergio Pérez et du Finlandais Valtteri Bottas, qui seront donc les deux pilotes titulaires. Pérez et Bottas qui totalisent à eux deux quelques 500 départs en Grand Prix. Cette annonce a été faite cette nuit pour nous. Elle vient clore des mois de spéculation qui entouraient les recrues de la future écurie. L'Américain Colton Herta, actuellement engagé en IndyCar, ou encore l'Allemand Mick Schumacher, le fils de la légende Michael, ont fait partie un temps des potentiels candidats. Mais Cadillac a finalement opté pour un duo très expérimenté. La durée des contrats de Pérez et de Bottas n'a pas été précisée.
On passe maintenant au sport dans la région et on commence par le rugby. La sélection calédonienne des moins de 15 ans est en Nouvelle-Zélande au Lindisfarne College de Napier.
Oui, les 22 joueurs accompagnés de deux coachs et de Jean-Louis Carrigon, le président de la Ligue calédonienne de rugby, vont participer dès aujourd'hui à la 23e édition de ce tournoi qui rassemble les meilleures équipes néo-zélandaises. Les jeunes Cagous vont disputer 4 rencontres, 3 matchs de poule, dont le premier cet après-midi face aux joueurs du St. John's College d'Hamilton. Puis un match de classement, ce sera samedi.
En football, l'équipe de Calédonie des moins de 16 ans jouera cet après-midi sa demi-finale du tournoi OFC. Les Cagous rencontrent Fidji. Coup d'envoi de la rencontre à 13h30 au National Stadium d'Honiara aux îles Salomon. Et puis un mot de voix lors du territoire pour signaler qu'en métropole, deux jeunes du club de catamaran de Nouméa ont remporté le titre de champion de France de leur catégorie d'âge. Félix Tron et Antoine Lajouani se sont imposés chez les moins de 17 ans en Accra 15, en double. Ils ont terminé 8e du classement général sur 47 équipages. Les championnats espoirs se déroulaient dans la ville de Martigues. Voilà, c'est la fin de ce journal. Thierry, mes infomag se poursuit évidemment jusqu'à 13h. Je vous laisse donc la suite et je vous souhaite une belle après-midi.